Les meubles de la salle à manger de la taverne avaient été enlevés, à l'exception d'une longue table de sapin et d'une chaise. On avait repoussé la table dans un coin et posé la chaise par-dessus. Sherlock Holmes était assis sur cette chaise, l'air grave, imposant et presque impressionnant. Le public se tenait debout et remplissait la salle. La fumée du tabac obscurcissait l'air et l'assistance observait un silence religieux. Sherlock Holmes leva la main pour concentrer sur lui l'attention du public et il la garda en l'air un moment. Puis, en termes brefs, saccadés, il posa une série de questions, soulignant les réponses de significatifs et de hochements de tête. Son interrogatoire fut très minutieux et porta sur tout ce qui concernait Flynn Buckner, son caractère, sa conduite, ses habitudes et l'opinion que les gens avaient de lui. Il comprit bien vite que son propre neveu était le seul dans le camp qui eût pu vouer à Flynn Buckner une haine mortelle. Monsieur Holmes accueillit ces témoignages avec un sourire de pitié et demanda sur un ton indifférent « Y a-t-il quelqu'un parmi vous, messieurs, qui puisse dire où se trouvait votre camarade Fetlock Jones au moment de l'explosion ?» Tous répondirent en chœur « Ici même !»« Depuis combien de temps y était-il ?» demanda M. Holmes. « Oh, depuis une heure environ. Bon, une heure à peu près. Quelle distance sépare cet endroit du théâtre de l'explosion ?»«
Une bonne lieue. Ceci est un alibi, il est vrai, mais médiocre. »
Un immense éclat de rire accueillit cette réflexion. Tous se mirent à crier « Ma parole, voilà qui est raide. Vous devez regretter maintenant, Sandy, ce que vous venez de dire. » Le témoin confus baissa la tête en rougissant et parut consterné du résultat de sa déposition. La connexion, quelque peu douteuse, entre le nommé Jones et cette affaire, les gens rient, ayant été examinée, reprit Holmes, appelons maintenant les témoins oculaires de la tragédie et interrogeons-les. Il exhiba ses fragments révélateurs et les rangea sur une feuille de carton étalée sur ses genoux. Toute la salle retenait sa respiration et écoutait. Nous possédons la longitude et la latitude avec la correction des variations magnétiques et nous connaissons ainsi le lieu exact du drame. Nous avons latitude, la température et l'état hygrométrique du lieu. Ces renseignements sont pour nous des plus précieux puisqu'ils nous permettent d'estimer avec précision le degré de l'influence que ces conditions spéciales ont pu exercer sur l'humeur et la disposition d'esprit de l'assassin à cette heure de la nuit. Brouhaha d'admiration, réflexion chuchotée, par Saint-Georges, quelle profondeur d'esprit. Holmes saisit entre ses doigts les pièces à conviction. Et maintenant, demandons à ces témoins muets de nous dire ce qu'ils savent. Voici un sac de toile vide, que nous révèle-t-il ? Que le mobile du crime a été le vol et non la vengeance. Qu'indique-t-il encore ? Que l'assassin était d'une intelligence médiocre ou, si vous préférez, d'un esprit léger et peu réfléchi ? Comment le savons-nous ? Parce qu'une personne vraiment intelligente ne se serait pas amusée à voler Buckner, un homme qui n'avait jamais beaucoup d'argent sur lui. Mais l'assassin aurait pu être un étranger. « Laissez encore parler le sac. Je retire cet objet. C'est un morceau de quartz argentifère. C'est singulier. Examinez-le, je vous prie, chacun à tour de rôle. Maintenant, rendez-le-moi, s'il vous plaît. » Il n'existe dans ce district qu'un seul filon qui produise du quartz exactement de cette espèce et de cette couleur. Ce filon rayonne sur une longueur d'environ 2000 et il est destiné, d'après ma conviction, à conférer à cet endroit, dans un temps très rapproché, une célébrité qui fera le tour du monde. Les 200 propriétaires qui se partagent son exploitation acquerront des richesses qui surpassent tous les rêves de l'avarice. Bon, désignez-moi ce filon par son nom, je vous prie. La science chrétienne est consolidée et Marianne, lui répondit-on sans hésiter. Une salve frénétique de hourra retentit aussitôt. Chaque homme prit le fragment des mains de son voisin et le serra avec des larmes d'attendrissement dans les yeux. Wells Fargo et Ferguson s'écrièrent. Le flush est sur le filon et la cote monte à $150 le pied, vous m'entendez? Bon, lorsque le calme fut revenu, Holmes reprit. Nous constatons donc que trois faits sont nettement établis, savoir que l'assassin était d'un esprit léger, qu'il n'était pas étranger, que son mobile était le vol et non la vengeance. Continuons. Je tiens dans ma main un petit fragment de mèche qui conserve encore l'odeur récente du feu. Que prouve-t-il? Si je rapproche ce fragment de mèche de l'évidence du quartz, j'en conclus que l'assassin est un mineur. Je dis plus, messieurs. J'affirme que l'assassinat a été commis en recourant à l'explosion. Je crois pouvoir avancer que l'engin explosif a été posé sur le côté de la hutte qui borde la route à peu près au milieu, car je l'ai trouvé à 6 pieds de ce point. Je tiens dans mes doigts une allumette suédoise de l'espèce de celle qu'on frotte sur les boîtes de sûreté. Je l'ai trouvée sur la route à 622 pieds de la case détruite. Que prouve-t-elle? Que la mèche a été allumée à ce même endroit. J'ajoute que l'assassin était gaucher. Vous allez me demander à quel signe je le vois. Il me serait impossible de vous l'expliquer, messieurs, car ces indices sont si subtils que seules une longue expérience et une étude approfondie peuvent rendre capable de les percevoir. Mais les preuves restent là, elles sont encore renforcées par un fait que vous avez dû remarquer souvent dans les grands récits policiers, c'est que tous les assassins sont gauchers. Ma parole, c'est vrai, dit Homme Sandwich en se frappant bruyamment la cuisse de sa lourde main. « Oh, du diable, si j'y avais pensé avant !»« Ah, dis-moi non plus !» crièrent les autres. « Rien ne peut décidément échapper à cet œil d'aigle. »« Messieurs, malgré la distance qui séparait l'assassin de sa victime, le premier n'est pas demeuré entièrement sain et sauf. Ce débris de bois que je vous présente maintenant a atteint l'assassin. » En les gratignant jusqu'au sang, il porte certainement sur son corps la marque révélatrice de l'éclat qu'il a reçu. Je l'ai ramassé à l'endroit où il devait se tenir, lorsqu'il alluma la mèche fatale. Il regarda l'auditoire du haut de son siège élevé, et son attitude s'assombrit immédiatement. Levant lentement la main, il désigna du doigt un assistant en disant « Voici l'assassin !» À cette révélation, l'assistance fut frappée de stupeur, puis 20 voix s'élevèrent, criant à la fois « Sammy Hillier ! Ah, diable, non ! Lui, c'est de la pure folie !»« Faites attention, messieurs, ne vous emportez pas, regardez !»« Il porte au front la marque du sang !» Hillier devint blême de peur. Prêt à éclater en sanglots, il se tourna vers l'assistance en cherchant sur chaque visage de l'aide et de la sympathie. Il tendit ses mains suppliantes vers Holmes et implora sa pitié, disant « De grâce, non, de grâce, ce n'est pas moi, je vous en donne ma parole d'honneur. Cette blessure que j'ai au front vient de… »« Arrêtez-le, agent de police !» cria Holmes, « je vous en donne l'ordre formel !» L'agent s'avança à contre-cœur, hésita et s'arrêta. Hillier jeta un nouvel appel. « Oh, Archie, ne les laissez pas faire, ma mère en mourrait. Mais vous savez d'où vient cette blessure? Dites-le leur, sauvez-moi, Archie, sauvez-moi !» Stillman perça la foule et dit « Oui, je vous sauverai, n'ayez pas peur. » Puis, s'adressant à l'assemblée, « N'attachez aucune importance à cette surcatrice qui n'a rien à voir avec l'affaire qui nous occupe. Ah, Dieu vous bénisse, Archie, mon cher ami. Hurrah pour Archie, camarade !» cria l'assemblée, tous bourrés d'envie de voir innocenter leur compatriote Sammy. Ce loyal sentiment était d'ailleurs très excusable dans leur cœur. Le jeune Stillman attendit que le calme se fût rétabli, puis il reprit « Je prierai Tom Jeffries de se tenir à cette porte et l'agent Harris de rester à l'autre en face. Ils ne laisseront sortir personne. » Aussitôt dit, aussitôt fait. « Le criminel est parmi nous, j'en suis persuadé. Je vous le prouverai avant longtemps si, comme je le crois, mes conjectures sont exactes. » Maintenant, laissez-moi vous retracer le drame du commencement jusqu'à la fin. Le mobile n'était pas le vol, mais la vengeance. Le meurtrier n'était pas un esprit léger. Il ne se tenait pas éloigné de 622 pieds. Il n'a jamais été atteint par un éclat de bois. Il n'a pas posé l'explosif contre la case. Il n'a pas apporté un sac avec lui. J'affirme même qu'il n'est pas gaucher. À part cela, le rapport de notre hôte distingué sur cette affaire est parfaitement exact. Un rire de satisfaction courut dans l'assemblée. Chacun se faisait signe de la tête et semblait dire à son voisin « Voilà le fin mot de l'histoire. Archie Stillman est un brave garçon, un bon camarade. Il n'a pas baissé pavillon devant Sherlock Holmes. » La sérénité de ce dernier ne paraissait nullement troublée. Stillman continua. « Moi aussi, j'ai des témoins oculaires, et je vous dirai tout à l'heure, vous pouvez en trouver d'autres. » Il exhiba un morceau de gros fil de fer. La foule tendit le cou pour voir. Il est recouvert d'une couche de suif fondu. Et voici une bougie qui est brûlée jusqu'à moitié. L'autre moitié porte des traces d'incision sur une longueur de 3 cm. Dans un instant, je vous dirai où j'ai trouvé ces objets. Pour le moment, je laisserai de côté les raisonnements, les arguments, les conjectures, plus ou moins enchevêtrées, en un mot, toute la mise en scène qui constitue le bagage du détective, et je vous dirai dans des termes très simples et sans détour comment ce lamentable événement est arrivé. Il s'arrêta un moment pour juger de l'effet produit et pour permettre à l'assistance de concentrer sur lui toute son attention. « L'assassin, reprit-il, a eu beaucoup de peine à arrêter son plan, qui était d'ailleurs bien compris et très ingénieux. Il dénote une intelligence véritable et pas du tout un esprit faible. C'est un plan parfaitement combiné pour écarter tout soupçon de son auteur. Il a commencé par marquer des points de repère sur une bougie de 3 en 3 cm. Il l'a allumée en notant le temps qu'elle mettait à brûler. Il trouva ainsi qu'il fallait 3 heures pour en brûler 12 cm. Je l'ai moi-même expérimenté là-haut pendant une demi-heure, il y a un moment de cela, pendant que M. Holmes procédait à l'enquête sur le caractère et les habitudes de Flint Buckner. J'ai donc pu relever le temps qu'il faut à une bougie pour se consumer lorsqu'elle est protégée du vent. Après son expérience, l'assassin a éteint la bougie, je crois vous l'avoir déjà dit, et il en a préparé une autre. Il fixa cette dernière dans un bougeoir de fer blanc. Puis, à la division correspondante à la 5e heure, il perça un trou avec un fil de fer rougi. Je vous ai déjà montré ce fil de fer recouvert d'une mince couche de suif. Ce suif provient de la fusion de la bougie. Avec peine, grande peine même, il grimpa à travers les ajoncs qui couvrent le talus escarpé situé derrière la maison de Flint Buckner. Il traînait derrière lui un baril vide qui avait contenu de la farine. Il le cacha à cet endroit parfaitement sûr et plaça le bougeoir à l'intérieur. Puis il mesura environ 35 pieds de mèche, représentant la distance du baril à la case. Il pratiqua un trou sur le côté du baril, et voici même la grosse vrille dont il s'est servi pour cela. Il termina sa préparation macabre, et quand tout fut achevé, un bout de la mèche aboutissait à la case de Buchner, l'autre extrémité, qui portait une cavité destinée à recevoir de la poudre, était placée dans le trou de la bougie. La position de ce trou était calculée de manière à faire sauter la hutte à 1 h du matin, en admettant que cette bougie ait été allumée vers 8 h hier soir, et qu'un explosif relié à cette extrémité de la mèche ait été déposé dans la case. Bien que je ne puisse le prouver, je parie que ce dispositif a été adopté à la lettre. Camarade, le baril est là, dans les ajoncs. Le reste de la bougie a été retrouvé dans le bougeoir de fer blanc. La mèche brûlée, nous l'avons reconnue dans le trou percé à la vrille. L'autre bout est à l'extrémité de la côte, à l'emplacement de la case détruite. J'ai retrouvé tous ces objets il y a 1 heure à peine, pendant que maître Sherlock Holmes livrait à des calculs plus ou moins fantaisistes et collectionnait des reliques qui n'avaient plus rien à voir avec l'affaire. Il s'arrêta. L'auditoire en profita pour reprendre haleine et détendre ses nerfs fatigués par une attention soutenue. « Du diable !» dit Ham Sandwich en éclatant de rire. « Voilà pourquoi il s'est promené seul de son côté dans les ajoncs au lieu de relever des points et des températures avec le professeur. Ah, voyez-vous, camarade, Archie n'est pas un imbécile. » « Ah non, certes, mais Stillman continua. Pendant que nous étions là-bas, il y a 1 ou 2 heures, le propriétaire de la vrille et de la bougie d'essai les enleva de l'endroit où il les avait d'abord placés, la première cachette n'étant pas bonne. Il les déposa à un autre endroit qui lui paraissait meilleur, à 200 mètres dans le bois de pin, et les cacha en les recouvrant d'aiguilles. C'est là que je les ai trouvés. La vrille est juste de la mesure du trou du baril. Quant à la... Holmes l'interrompit, disant avec une certaine ironie. « Nous venons d'entendre un très joli conte de fées, messieurs. Certes, très joli. Seulement, je voudrais poser 1 ou 2 questions à ce jeune homme. » L'assistance parut impressionnée. Ferguson marmotta. « J'ai peur qu'Archie ne trouve son maître cette fois. » Les autres ne riaient plus et paraissaient anxieux. Holmes prit donc la parole à son tour. « Pénétrons dans ce conte de fées d'un pas sûr et méthodique, par progression géométrique, si je puis m'exprimer ainsi. Enchaînons les détails et montons à l'assaut de cette citadelle d'erreurs. Pauvre joujou de clinquant, en soutenant une allure ferme, vive et résolue. Nous ne rencontrons devant nous que l'illucubration fantasque d'une imagination à peine éclose. Pour commencer, jeune homme, je désire de vous poser que 3 questions. Si j'ai bien compris, d'après vous, cette bougie aurait été allumée hier soir vers 8 h.
Oui, monsieur, vers 8 h.
Pouvez-vous dire 8 h précises?
Oh, ça non. Je ne saurais être aussi affirmatif.
Donc, si une personne avait passé par là juste à 8 h, elle aurait infailliblement rencontré l'assassin, c'est votre avis?
Oui, je le suppose.
Merci, c'est tout. Pour le moment, cela me suffit. Oui, c'est tout ce que je vous demande pour le quart d'heure.
Au diantre, il tape ferme sur Archie, remarqua Ferguson. Oh, c'est vrai, dit Ham Sandwich. Cette discussion ne me promet rien qui vaille.
Stillman reprit en regardant Holmes. J'étais moi-même par là-haut à 8 h 30, ou plutôt vers 9 h.
Vraiment, ceci est intéressant, très intéressant. Peut-être avez-vous rencontré vous-même l'assassin?
Oh, non, non, je n'ai rencontré personne. Alors, pardonnez-moi cette remarque, je ne vois pas bien la valeur de votre renseignement. Mais il n'en a aucune à présent. Alors, je dis, notez-le bien, pour le moment. Stillman continua, je n'ai pas rencontré l'assassin, mais je suis sur ses traces, j'en réponds, je le crois même dans cette pièce. Je vous prierai tous de passer individuellement devant moi, ici, à la lumière, pour que je puisse voir vos pieds. Un murmure d'agitation parcourut la salle et le défilé commença. Sherlock regardait avec la volonté bien arrêtée de conserver son sérieux. Stillman se baissa, couvrit son front avec sa main et examina attentivement chaque paire de pieds qui passait. 50 hommes défilèrent lentement, sans résultat, 60, 70. La cérémonie commençait à devenir ridicule et Holmes remarqua avec une douce ironie: oh, les assassins se font rares ce soir. La salle comprit le piquant et éclata d'un bon rire franc. 10 ou 12 autres candidats passèrent, ou plutôt défilèrent en dansant des entrechats comiques qui excitèrent l'hilarité des spectateurs. Soudain, Stillman allongea le bras et dit: voici l'assassin.
Fetlock Jones? Par le grand sang Hédrin! Hurla la foule en accompagnant cette explosion d'étonnement, de remarques et de cris confus qui dénotaient bien l'état d'âme de l'auditoire.
Au plus fort du tumulte, Holmes étendit le bras pour imposer silence. L'autorité de son grand nom et le prestige de sa personnalité électrisèrent les assistants qui obéirent immédiatement. Et au milieu du silence complet qui suivit, Maître Sherlock prit la parole, disant avec componction:
« Ceci est trop grave. Il y va de la vie d'un innocent, d'un homme dont la conduite défie tout soupçon. Écoutez-moi, je vais vous en donner la preuve palpable et réduire au silence cette accusation aussi mensongère que coupable. Mes amis, ce garçon ne m'a pas quitté d'une semelle pendant toute la soirée d'hier. »
Ces paroles firent une profonde impression sur l'auditoire. Tous tournèrent les yeux vers Stillman avec des regards inquisiteurs. Lui, l'air rayonnant, se contenta de répondre: « Je savais bien qu'il y avait un autre assassin. » Et se disant, il s'approcha vivement de la table et examina les pieds d'Holmes. Puis, le regardant bien dans les yeux, il lui dit: « Vous étiez avec lui. Vous vous teniez à peine à 50 pas de lui lorsqu'il alluma la bougie qui mit le feu à la mèche. Et qui plus est, c'est vous-même qui avez fourni les allumettes. » Cette révélation stupéfia Holmes. Le public put s'en apercevoir car, lorsqu'il ouvrit la bouche pour parler, ses mots entrecoupés purent à peine sortir.
« Ceci, oh, mais c'est de la folie !»
Stillman sentit qu'il gagnait du terrain et prit confiance. Il montra une allumette carbonisée.
« En voici une. Je l'ai trouvée dans le baril. Tenez, en voici une autre. »
Holmes retrouva immédiatement l'usage de la parole.
« Oui, vous les avez mises là vous-même. »
Oh, la riposte était bien trouvée, chacun le reconnut, mais Stillman reprit. « Ce sont des allumettes de cire, un article inconnu dans ce camp. Je suis prêt à me laisser fouiller pour qu'on cherche à découvrir la boîte sur moi. Êtes-vous prêt, vous aussi ?» L'hôte restait stupéfait. C'était visible aux yeux de tous. Il remua les doigts. Une ou deux fois, ses lèvres s'entrouvrirent, mais les paroles ne venaient pas. Oh, l'assemblée n'en pouvait plus et voulait à tout prix voir le dénouement de cette situation. Stillman demanda simplement « Nous attendons votre décision, monsieur Holmes. »
Après un silence de quelques instants, l'hôte répondit à voix basse « Je défends qu'on me fouille ». Il n'y eut aucune démonstration bruyante, mais dans la salle, chacun dit à son voisin « Oh, cette fois, la question est tranchée. Holmès n'emmène pas plus large le bras archi. Que faire maintenant ?» Personne ne semblait le savoir. La situation devenait embarrassante, car les événements avaient pris une tournure si inattendue et si subite que les esprits s'étaient laissés surprendre et battaient la breloque comme une pendule qui a reçu un choc. Mais peu à peu, le mécanisme se rétablit et les conversations reprirent leur cours. Formant des groupes de 2 à 3, les hommes se réunirent et essayèrent d'émettre leur avis sous forme de propositions. La majorité était d'avis d'adresser à l'assassin un vote de remerciement pour avoir débarrassé la communauté de Flynn Buckner. Cette action méritait bien qu'on le laissât en liberté. Mais les gens plus réfléchis protestèrent, alléguant que les cervelles mal équilibrées des États de l'Est écriraient au scandale et feraient un tapage épouvantable si on acquittait l'assassin. Cette dernière considération l'emporta donc et obtint l'approbation générale. Il fut décidé que Fetlock Jones serait arrêté et passerait en jugement. La question semblait donc tranchée, et les discussions n'avaient plus leur raison d'être maintenant. Au fond, les gens en étaient enchantés, car tous, dans leur fort intérieur, avaient envie de sortir et de se transporter sur les lieux du drame, pour voir si le baril et les autres objets y étaient réellement. Mais un incident imprévu prolongea la séance et amena de nouvelles surprises. Fetlock Jones, qui avait pleuré silencieusement, passant presque inaperçu au milieu de l'excitation générale et des scènes émouvantes qui se succédaient depuis un moment, sortit de sa torpeur lorsqu'il entendit parler de son arrestation et de sa mise en jugement. Son désespoir éclata et il s'écria « Non ! Ce n'est pas la peine, j'ai besoin de prison ni de jugement. Mon châtiment est assez dur à l'heure qu'il est. N'ajoutez rien à mon malheur, à mes souffrances. Pendez-moi et que ce soit fini. Mon crime devait être découvert, c'était fatal. Rien ne peut me sauver maintenant. » Il vous a tout raconté, absolument, comme s'il avait été avec moi et m'avait vu. Comment le sait-il ? C'est pour moi un prodige, mais vous trouverez le baril et les autres objets. Le sort en est jeté, je n'ai plus une chance de salut. Je l'ai tué, et vous en auriez fait autant à ma place, si comme moi vous aviez été traité comme un chien. N'oubliez pas que j'étais un pauvre garçon faible, sans défense, sans un ami pour me secourir. « Il l'a bigrement mérité !» s'écria M. Sandwich. Des voix. « Écoutez, camarades, l'agent de police. De l'ordre, messieurs !» Une voix. « Votre oncle savait-il ce que vous faisiez ?»« Non, il n'en savait rien. Êtes-vous certain qu'il vous ait donné des allumettes ?»« Oui, mais il ne savait pas l'usage que j'en voulais faire. Lorsque vous étiez occupé à préparer votre coup, comment avez-vous pu oser l'emmener avec vous ? Lui, un détective, c'est inexplicable !» Le jeune homme hésita, tripota les boutons de sa veste d'un air embarrassé et répondit timidement « Je connais les détectives, car j'en ai dans ma famille, et je sais que le moyen le plus sûr de leur cacher un mauvais coup, c'est de les avoir avec soi au moment psychologique. » L'explosion de rire qui accueillit ce naïf aveu ne fit qu'augmenter l'embarras du pauvre petit accusé.